Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur RDWA 107.5 FM, www.rdwa.fr. Nous sommes aujourd'hui avec Gilbert Isoard, Alain Gourdol et Jackie Trémouille pour la troisième émission de Jumelage Actu. Bonjour à tous et à toutes.
Bonjour.
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 On avait déjà eu deux émissions auparavant qui parlaient du DIY jumelage et on avait pu voir un peu plus en détail en quoi consistaient les jumelages avec les villes d'Europe. Mais du coup, le Sénégal, dont nous allons parler aujourd'hui, n'est pas exactement en jumelage, si j'ai bien compris avec Di.
Voilà, donc on parlera plutôt d'un partenariat qui se déroule entre ces deux pays. Ce partenariat existe depuis les années 90, depuis 1991.
Qui a été initié
Alors, qui a été initié au départ par deux amis, un Sénégalais et un Français, qui ont désiré mettre en relation carrément même la région Rhône-Alpes avec tout un département, le département de Bakel, au Sénégal. Donc, divers jumelages se sont créés à ce moment-là. Ensuite, bon, il y a eu des vies différentes suivant les villes qui étaient entrées dans ce partenariat-là. Et donc voilà, on est toujours, nous, en relation avec la commune de Douguet.
Quelle est vraiment la différence en fait, entre les jumelages qu'on peut avoir avec les villes d'Europe et le partenariat de Douguet?
Alors, je pense que les échanges qu'il y a entre les villes jumelées européennes se déroulent plus autour de la culture, des visites, on échange, on se reçoit mutuellement les uns les autres. Là, effectivement, il n'en est pas question avec le Sénégal. Donc, c'est vraiment sur un autre plan où on échange aussi par rapport à... On essaie de comprendre comment vivent les gens dans un pays, mais qui est quand même très différent du nôtre. C'est aussi ce qui donne beaucoup de richesse à l'échange. Et effectivement, il y a des actions qui sont faites pour apporter notre aide à ce pays sur des plans tels que... l'éducation, la culture, l'agriculture et l'eau, l'assainissement, des choses comme ça.
J'ai cru comprendre qu'avec le temps et depuis l'ouverture du partenariat avec Douguet, il y avait déjà eu plusieurs projets qui avaient été pensés et certains même qui sont déjà plutôt bien avancés.
Voilà, donc ben, je peux faire un petit historique sur les projets les plus importants qui ont eu lieu depuis 25 ans presque maintenant. Donc au départ, il y a eu l'implication du lycée du DIWA sur la réparation de mobilettes, de 5 mobilettes à l'époque qui ont été données aux 5 instituteurs de la commune de Douguet, puisqu'il n'y en avait que 5 à cette époque-là, pour pouvoir se déplacer pour aller à leur formation pédagogique tous les mois. Donc c'était quand même quelque chose d'important aussi. Ensuite, il y a eu aussi de l'aide à l'embouche bovine. Ensuite, dans les années 95, 97, 98, il y a eu un projet éducatif Nord-Sud. On avait été aidé par le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Coopération aussi. Ensuite, en 2002, il y a un groupe de lycéens qui est parti pour construire une maternité qui avait été demandée par la population. On avait fait les plans ensemble dans les années 97-98 et en 2002, un groupe de jeunes est parti construire cette maternité. Actuellement, elle ne sert pas de maternité, mais elle a été réaménagée pour servir de logement pour les instituteurs. Donc, c'est un bâtiment qui marche toujours. En 2006, il y a eu une résidence d'un groupe de la Croix-Rouge, des résidents de la Croix-Rouge de Recoubo. Ils sont allés faire un chantier de peinture, ils sont allés peindre les salles de classe, justement, et la maison et la salle de la mairie. Et vraiment, là aussi, on a vécu un échange entre les jeunes des villages absolument extraordinaire. C'était vraiment très riche. Et puis en 2010, donc, le dernier projet qui s'est réalisé, ça a été d'aménager une clôture autour d'un jardin potager dans le village de Soututa, qui fait partie de la commune de Douguet, pour donc 140 familles, je crois, qui utilisent ce jardin. Mais ça représente 250 ou 300 femmes, parce que dans chaque famille, il y a plusieurs femmes qui viennent travailler des parcelles. Voilà, donc c'est un jardin potager qui a été clôturé. Et donc, on est sur d'autres projets actuellement qui expliquent notre voyage récent de novembre à décembre 2015. Là. Voilà, en gros, l'historique du jumelage avec Douguet.
Durant ce voyage, donc, vous avez rencontré les habitants ainsi que le nouveau maire, c'est ça ?
Oui, alors moi, je voudrais d'abord présenter un petit peu la commune de Douguet avec qui, effectivement, le partenariat existe depuis longtemps. Mais cette commune est le village principal d'un grand territoire qui a été recomposé récemment et qui comprend 16 villages. Ça fait environ 7000 habitants qui sont répartis sur un grand territoire très peu peuplé. Qui se trouve près de la frontière du Mali, c'est-à-dire très loin de Dakar, à 600 km, où on accède par une route principale et puis ensuite par des pistes. C'est un village où l'habitat est constitué de huttes, essentiellement, un peu de construction en dur. La plupart ne sont pas électrifiés, il n'y a pas de moyens, si ce n'est quelques panneaux solaires pour certains centres de santé. L'adduction d'eau n'existe quasiment nulle part, sauf dans le village, dans la ville principale de Douguet, qui compte environ 1000 habitants. Et nous sommes intéressés à Douguet, mais également à un village important qui s'appelle Soututa et qui a 1900 habitants, et dans lequel il n'y a justement pas d'électricité, mais quelques panneaux solaires et des puits pour amener l'eau, qui sont dispersés un peu dans toute la commune. Et si nous sommes intéressés à Soututa, c'est parce que c'est un village qui paraît assez dynamique, qui a envie d'aller de l'avant. Et nous avons rencontré des personnes, notamment l'adjoint du village, qui s'appelle Shérif Sakanoko, et qui a été notre guide tout le long du voyage, qui est venu nous accueillir à l'aéroport et qui nous a accompagnés dans toutes les démarches avec le maire de Douguet, Babandiaï, qui était un peu l'organisateur, parce qu'il est venu à Di au mois de mai et il nous a proposé de participer ou d'étudier avec lui des projets de développement qu'il voudrait avoir dans sa commune. C'est un nouveau maire, il est plein de dynamisme, d'ambition, de volonté de développer son village. Et donc, on aurait aimé l'accompagner dans certains projets. Et donc, on a choisi de continuer le projet qui avait été prévu il y a 5 ans, qui consistait donc à installer une pompe solaire dans un jardin des femmes. Ça a une fonction utile, évidente, puisque les femmes tirent l'eau au puits avec un seau fabriqué un petit peu artisanalement, avec une poulie, il n'y a pas de pompe. Et ensuite, avec leur bassine qu'elles trimballent sur la tête pendant des dizaines ou centaines de mètres, elles vont arroser leur petite parcelle avec une tasse et elles déversent sur leur petite culture quelques tasses d'eau pour arroser et ainsi de suite toute la matinée, soir, enfin le temps qu'elles y passent. Sachant qu'elles ont également les cultures dans les champs à faire et les familles à gérer. Donc il y a une répartition des tâches qui est faite, mais qui demande beaucoup de temps. Donc nous avons souhaité continuer ce projet de pompe solaire parce que ça pourrait faciliter le travail des femmes qui n'auraient pas autant de temps à passer à puiser l'eau, qui pourraient ainsi, parce qu'il y a un grand réservoir qui est prévu, qui permettrait de ce puits d'alimenter le réservoir et elles n'auraient plus qu'à prendre l'eau avec leur arrosoir pour arroser leur parcelle, d'où gain de temps pour les femmes. Pour les filles qui passent aussi du temps et qui sont souvent un peu privées d'école du fait du temps occupé à cet âge-là. Et on peut espérer que la rentabilité de leur jardin serait autrement décuplée. Donc une meilleure productivité et du temps pour faire d'autres cultures. Voilà, c'était un peu le projet.
Pour nous, quand on est en voyage, on parle surtout avec les hommes parce que quelques hommes sont allés à l'école. Donc, l'école se déroule en français. Donc, pour nous, il n'y a pas de problème. Malheureusement, on parle avec peu de femmes parce que les femmes sont peu allées à l'école, dans ces villages-là en tout cas. Et effectivement, il y a une ethnie, surtout Peul, qui parle le poulard, des Soninké qui parlent c'est le contraire, c'est les Saracolé qui parlent Soninké, oui. Et puis les Diakanté, c'est les ethnies majoritaires des villages dans lesquels on se rend. Et Et c'est vrai que mais les personnes parlent plusieurs langues et ce sont vraiment des langues différentes. Ce ne sont pas
des dialectes.
Ce sont vraiment des langues à part entière et qui sont quelquefois très, très différentes. Mais depuis leur plus jeune âge, les enfants ont l'habitude d'entendre parler plusieurs langues. Donc, ce n'est pas un souci aussi grand que chez nous de parler une autre langue. Tout le monde parle 4 ou 5 langues pratiquement souvent.
Ouais, donc en fait, ça serait vraiment plus un souci pour nous en allant là-bas de s'adapter en fait. D'accord.
Mais avec le français, vraiment, il n'y a aucun souci de communication.
Pour commencer, en arrivant à Dakar, nous avons eu des rencontres qui étaient organisées. Donc on a commencé par l'ambassade de France, par la chargée de mission pour la coopération décentralisée. Après, nous avons rencontré, donc on présente nos projets, on a donc une discussion qui est assez intéressante, hein, donc bon, on ne va pas la détailler, c'est trop long. Après, nous avons rencontré l'AFD, qui est l'Agence française de développement, qui est un très gros organisme qui finance beaucoup de programmes dans le secteur agricole, dans beaucoup d'autres domaines, dans tous les échanges nord-sud, qui traite sur des centaines de milliers d'euros et qui sont très intéressantes à rencontrer, surtout pour le maire Baba, qui voulait rencontrer ces personnes-là. Donc après, nous sommes reçus aussi par le député de la région, de Goudiri, donc. Et puis après, donc, je vous énumère donc, les ONG que nous avons rencontrées, et puis, pour simplifier. Après un séjour sur Douguet, nous sommes partis sur Bakel, où nous avons rencontré donc, le GRDR. C'est aussi une ONG donc, d'origine française, groupe de recherche et de développement rural. Donc c'est aussi des très grosses ONG. Après Matam, nous avons rencontré donc, l'ADOS. L'ADOS est une ONG qui est dromardéchoise, pardon, ils vont être fâchés autrement, donc qui est basée à Valence, qui est très très ancienne, qui a 30 ans d'existence, et où ils sont toujours dans la même région, donc à Matam, à la frontière mauritanienne. Et donc nous avons été les rencontrer parce que c'est un appui très important pour nous. Pour une petite ONG comme nous, c'est assez intéressant, ou petite association, pardon. Et donc nous avons aussi dans ce cadre-là, dans nos rencontres, nous avons eu des contacts avec Électriciens sans frontières qui nous ont apporté des éléments techniques importants pour notre projet de pompe à énergie solaire. Et je dis bien pompe à énergie solaire.
Notre démarche, c'était aussi de rencontrer avec l'ADOS un centre de formation qui est en partenariat avec les centres de formation de France,
Livron,
qui se trouve à Livron, parce qu'il y a des jeunes qui vont, je crois que c'est tous les ans, en tout cas très régulièrement, avec leurs profs, rencontrer et monter des projets dans des villages de cette région-là. Et ils instaurent une organisation en binôme entre un Français et un Sénégalais, un jeune. Et ils ont tout un projet d'installation. Et donc, je crois que cette année, ils étaient à Waoundé, où ils avaient un certain nombre de bornes-fontaines à installer suite à une adduction d'eau. Donc, c'est une façon à la fois de se former, de se connaître. Bon, je ne peux pas en parler personnellement, mais c'est pour dire qu'il y a un partenariat qui est intéressant au niveau de la formation, parce que c'est un gros souci de pouvoir former les jeunes du Sénégal pour d'une part qu'ils aient envie de rester dans leur pays et non pas de rêver d'immigration systématiquement. Et puis d'autre part, pour qu'ils aient des compétences pour justement apporter des développements, de la mécanisation, de la réparation, de l'aménagement, du développement pour leur pays, quoi.
Moi, je suis allée dans ces villages en 1995 et pour 39 villages, il y avait une seule classe de 33 élèves. Bon, dès l'année d'après, il y en avait 5, puis 7. Et puis vraiment, là, il y a eu quand même un très, très gros développement au niveau de la scolarisation. Bien que tous les enfants ne soient pas encore scolarisés. Mais quand même, si on prend l'exemple de Douguet, Bamban Ndiaye, qui est le directeur de l'école et en même temps maire de la commune de Douguet, a vraiment poussé à la création d'un collège à Douguet. Ça, c'est très, très important que les enfants puissent aller dans le secondaire pour garder l'habitude de la lecture et... parce que sinon, les enfants oublient très vite. Et même cette année, il a créé une classe maternelle, une crèche, pour les jeunes enfants. Parce qu'il faut dire que les enfants ne parlent pas français et l'enseignement se fait en français. Donc, il faut quand même que les enfants apprennent le français. Il y a une classe qui s'appelle le cours d'initiation. Quand ils arrivent à l'école primaire, ils ne commencent pas par le CP, ils commencent par le cours d'initiation pour apprendre la langue. Et c'est vrai que là, la scolarisation, c'est vraiment... Le gouvernement sénégalais a beaucoup œuvré pour le développement de la scolarisation.
Voilà. Ça se développe quand même plutôt bien en ce moment.
Alors, ça n'empêche qu'on a quand même vu une classe de 89 élèves en cours d'initiation. Et donc, cette classe fonctionne avec deux cohortes, ils appellent ça des cohortes. Une cohorte qui vient l'après-midi, le matin, et puis l'autre l'après-midi. Mais les enfants sont très heureux d'être là, et c'est, voilà, tout le monde est bien content que cette classe existe. Il y a aussi effectivement la formation, comme disait Jackie tout à l'heure, la formation à différents métiers manque cruellement dans les villages. Mm-hmm. Et ce serait vraiment pourtant un grand débouché pour tous ces jeunes qui sont assez sans espoir, sans avenir. Enfin, ils se pensent comme ça. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait développer parce qu'il y a beaucoup de travail. Il y aurait beaucoup de travail au niveau de la maintenance du matériel. Voilà. Et ce serait vraiment un but à atteindre.
Les activités principales qui sont pratiquées là-bas, c'est surtout de l'agriculture et de l'élevage, si j'ai bien compris. Donc au final, il y a vraiment un besoin permanent d'avoir...
Ouais. Oui, oui. C'est les principales activités, c'est ça. C'est donc le maraîchage. Il n'y a pas de culture très, très importante ou très intensive. C'est la plupart du temps des petits maraîchages. On a un peu de culture un peu plus importante sur le riz, par exemple. Là, c'est des grandes étendues, mais qui sont pas non plus très importantes. Après, il y a un peu d'hibiscus, beaucoup d'arachides, le mil. Oui, le mil est en train de baisser. Hein. C'est encore une ancienne céréale, mais le riz est en train de reprendre sa place grâce à des recherches aussi avec des gens comme Semences Paysannes qui font de la recherche sur les anciennes variétés de riz, dont d'ailleurs notre premier adjoint, le shérif Amidalay, a développé avec des anciennes variétés où c'est un riz qui ne pousse pratiquement sans eau. Donc, si ça continue, c'est les Africains qui vont nous apprendre à travailler et à reprendre nos anciennes variétés pour pouvoir se nourrir plus simplement. Voilà, c'est une petite aparté, ça. Voilà, donc, sinon, les cultures, l'arachide est quand même encore très important. Enfin, on le sent, on l'a vu de nos yeux, c'est vrai, très important. Mais il n'y a pas de grands champs comme on peut penser, comme on voit par exemple en Europe. Quoi. La plupart des parcelles sont assez petites, et d'abord parce qu'elles sont travaillées manuellement ou qu'avec un âne ou un petit cheval quand l'agriculteur est assez riche pour avoir un cheval. Donc l'élevage continue à progresser et ils ont lancé un programme, donc plusieurs pays d'ailleurs d'Afrique de l'Ouest, sur la modification à l'insémination pour les vaches laitières, parce qu'ils voudraient développer toute la partie laitière et même fromagère si possible. Ça c'est des projets de gouvernementaux, hein, on en parle, parce qu'on parle un peu de leur façon de vivre. Voilà. Mais là on peut difficilement s'inscrire dedans, nous, parce que c'est des grands projets, quoi. Pour revenir un peu quand même à ce qu'a dit Jackie sur le lycée, il faut dire que le lycée de Livron est un échange très important pour eux pour faire voir ce que ça peut faire. C'est-à-dire que les professeurs sénégalais viennent régulièrement donc à Livron, dans la Drôme, et donc repartent avec des formations. Et des Français vont en échange. Et c'est un exemple, je trouve, de travail très intéressant pour les développer.
Et pour revenir sur le projet justement que porte Diwa Jumelage avec le Sénégal, en quoi ça a pu permettre justement l'avancée un petit peu aussi dans l'agriculture?
Il faut savoir que bon, c'était, ça nous paraissait évident que de faciliter le travail des femmes, ça ne pouvait qu'être une bonne chose. Et je crois que le maire Baba Ndiaye était satisfait de ce projet parce qu'il espère que ça va faire une vitrine pour les autres villages, que ça va peut-être motiver les autres à essayer de trouver aussi des moyens de développer leur agriculture. Et il a envie effectivement de faire des exemples avec les gens qui sont motivés, parce qu'il faut quand même que les gens aient envie de porter ce projet. Là, on en parlera tout à l'heure. C'est un partenariat qu'on a établi avec eux, mais également avec l'association des immigrés, avec la commune. Chacun va y mettre une part pour que ça se réalise. Ce n'est pas uniquement l'argent qu'on apporte, c'est aussi tout le travail qui va se faire en amont et ensuite pour que ça perdure, que ça ne soit pas une installation qui tombe à l'eau, c'est le cas de le dire. Il faut que ce soit préparé pour que ça dure et que ça soit pérenne et que ça donne envie aux autres de le faire. Donc c'est un peu une vitrine. Et le maire est parti beaucoup dans cette idée-là d'avoir des choses qui donnent envie aux gens de s'investir. Et on parlera peut-être du matériel agricole qu'il souhaite installer dans sa commune.
Et son but, donc, au maire, c'est aussi de rendre ces villages autonomes alimentairement. Voilà ce qu'il a envie. Et ça, je trouve que c'est super intéressant. Parce que déjà, faire venir des marchandises Côte d'Ivoire ou de notre pays ou d'une région très éloignée, comme on a dit tout à l'heure, les routes sont vraiment assez détestables. Donc voilà, c'est un projet intéressant que de rendre son village et tous ces villages autonomes, s'ils pouvaient, alimentairement. Ça, c'est un beau projet, à mon sens.
Pour la réalisation de ce projet, on a signé une convention quadripartite qui inclut donc les habitants, évidemment les associations des femmes. Il y a deux associations de femmes, mais depuis quelque temps, il y a des hommes aussi qui sont mis dans l'association. Ils ont bien prouvé leur présence parce qu'ils ont fait un travail collectif là au mois de septembre pour refaire la clôture du jardin qui avait été emporté par l'hivernage. Donc c'est pas simplement les noms des hommes qui sont rajoutés dans l'association, c'est que ils sont vraiment venus hommes et femmes pour réparer la clôture. Pour nous, ça semble étonnant de se relever ça, mais là-bas, les tâches sont très segmentées, très séparées, quoi. Donc, les hommes doivent faire certaines choses, les femmes autre chose. Enfin, vraiment, c'est très séparé. Et là, donc, ils avaient déjà depuis un an ou deux, les hommes ont désiré venir faire partie de ces associations et ils ont vraiment montré leur participation. Pour ça. Donc, la première partie, c'est donc les associations des villageois de Soututa. Aussi, l'association des immigrés de ce village de Soututa, qui est domiciliée à Paris, avec qui on a des liens constants. La commune de Dougué et puis d'Iwa Jumelage. Et donc, cette convention avait pour objet de définir les rôles de chacun.
Quand on parle d'action, en fait, certains fournissent des marchandises, des matériaux. La commune est censée fournir le sable, le ciment pour faire les aménagements parce qu'en fait, il y a un puits, mais ce puits, l'eau doit être conduite depuis le puits une fois qu'elle sera extraite grâce à notre super pompe à énergie solaire. L'eau, il faut la conduire à un bassin pour qu'effectivement, elle puisse être accessible le plus facilement et pour que ça soit aussi utile pour l'ensemble de la population, il faut que ce puits permette d'amener l'eau à des abreuvoirs pour les bêtes, parce qu'il n'est pas question que les bêtes rentrent et aient accès au réservoir. Donc, ils doivent construire un abreuvoir et cette pompe solaire va permettre d'extraire l'eau et d'alimenter l'abreuvoir et le réservoir. Donc tout ça, ça demande des aménagements, des constructions, de tranchées, de bassins et de finition d'un bassin qui existe déjà. Donc tout ce travail-là, les matériaux sont fournis par la commune, le travail sera réalisé par les habitants de Soututa. Et ensuite, il y a une entreprise qui viendra installer la pompe solaire, montrer comment ça fonctionne. C'est très simple au niveau fonctionnement, mais toutefois, on a quand même prévu deux personnes qui seront responsables, qui ont été choisies par les habitants de Soututa. C'est deux jeunes, un garçon et une fille, qui a priori n'ont pas l'intention de partir de la région et qui seront responsables de voir s'il y a un problème dans le fonctionnement. Dans ce cas-là, ils appelleront l'entreprise qui l'aura installée et qui expliqueront un petit peu l'organisation et qui surveilleront que tout se passe le mieux possible. Le but de notre visite au Sénégal, ça a été justement de rencontrer des entreprises installatrices, notamment par l'intermédiaire de Électriciens sans frontières et de l'ADOS, qui nous ont permis de voir des installations qui viennent d'être faites dans la région de Matam, donc, et nous avons vu comment c'était opérationnel pour être sûr de trouver une entreprise qui soit compétente, d'une part pour l'installation, d'autre part pour le service après-vente s'il y a un problème, parce que c'est un peu le souci. Eux, ils pensaient qu'on allait arriver avec notre pompe sous le bras, qu'on allait la poser et que quand ils auraient le temps, quelqu'un l'installerait. Et nous, on refuse cette démarche-là. On veut que ce soit vraiment installé par des gens compétents. Donc, on a essayé de prendre le maximum de garanties pour ne pas faire d'erreur à ce sujet et pour être sûr qu'effectivement, nos personnes d'entretien de Soututa pourraient contacter facilement l'entreprise qui se déplacera. Parce que là-bas, on a constaté que beaucoup de moulins ou autres machines qui ont été installées n'ont jamais été réparées. Peut-être parfois après 3 semaines de marche. Donc, il importe d'avoir un service après-vente et ce n'est pas toutes les entreprises. J'ai oublié l'association des immigrés dans nos partenaires de la convention. J'ai parlé de la commune, j'ai parlé des habitants et l'association des immigrés de Paris, dont tu as parlé Gilberte, vont participer à l'entretien de l'équipe qui va venir installer. Ça dure environ 3-4 jours l'installation, donc il y a plusieurs ouvriers qui vont venir avec tout ce qu'il faut pour que cela fonctionne. Une fois que tout sera préparé par les habitants, c'est-à-dire il faut que toutes les canalisations tranchées aient été posées, et le bassin construit, et eux ils n'auront plus qu'à installer leurs tuyaux et faire les branchements électriques, donc, et tester le miracle, l'eau qui va couler.
Ils doivent payer la clôture de l'installation autour des panneaux.
Ils ont également, oui, les habitants de la commune vont avoir à construire une petite clôture autour des panneaux solaires, parce qu'on a constaté lors de nos visites dans d'autres installations que les panneaux avaient été détériorés parce que justement, ils avaient été mal positionnés, trop bas, ils ont reçu des pierres et ils n'étaient plus utilisables. Donc, il faut également protéger, donc ça fait partie des tâches des habitants de préparer tout ce travail.
Donc, ce qu'on n'a pas parlé tout à l'heure dans les projets, c'est un petit projet. Nous avons constaté quand même que le gouvernement leur avait fourni des moulins à mille et qui n'ont marché que quelques jours. Donc, tout est en panne et ça, on va essayer de s'en occuper aussi sans l'oublier dans nos opérations tout à l'heure, entre nous. Mais c'est des petites choses, mais qui sont aussi importantes pour les femmes, puisque le mille s'est écrasé à la main. Hein, donc, si, tout le monde l'a vu à la télévision, je pense. Donc ça, c'est un petit projet qui ne coûtera pas cher sûrement, mais on va essayer de le résoudre. Hein. Ça, c'est aussi Diwa Gymnage qui le fera. Et donc après, donc, nous avons fait quelques recherches d'eau. Ça, c'est un petit peu mon domaine. Bon, dans un village où donc, ils allaient commencer un puits. Et après, il nous a fait voir des retenues d'eau donc, qui ont donc cédé soit avec les hivernages, soit qui sont en mauvais état. Et donc, ça sert aussi de passage pour les véhicules. Enfin, bon. Et donc, on a pris toutes les données techniques. Et ça, on va faire des études parce que ce sont des projets quand même qui coûtent relativement cher. Je m'en doute, quoi, parce que je ne suis pas complètement de la partie, mais je vois ce que c'est. C'est des choses importantes aussi, puisque ces retenues d'eau, si elles pouvaient être réalisées, augmentent les volumes d'eau pendant la retenue de l'hivernage. Donc, quand il pleut beaucoup, si vous voulez, toutes ces eaux sont retenues par ces mini barrages, on va appeler ça. Nous, moi, je préfère retenue d'eau parce que c'est des retenues qui font 1 mètre, 1 mètre 50 d'eau, c'est pas très important. Mais qui font des hectares d'eau derrière et qui, ils ont de l'eau pour les animaux gratuitement, bien sûr. Donc, il n'y a pas besoin de venir autour des puits, ce qui est important aussi parce qu'ils polluent beaucoup les puits avec leurs animaux. Et aussi, donc, augmenter la surface cultivable autour de ces retenues d'eau. Voilà, ça, c'est des projets très importants qui se développent. La DOS, donc, que je répète encore, de Valence, a développé ça depuis 30 ans. Il a fait des retenues exceptionnelles de côté de Matam et qui donnent des résultats très, très, très intéressants. Donc, ça fixe aussi les gens, ça fixe aussi les gens pour travailler plus facilement dans les régions. Et après, oui, donc ça, c'est un autre petit projet qui est un peu donc, la demande du maire. Il voudrait aussi toujours, dans le cadre de l'autonomie alimentaire, développer et puis aussi garder les jeunes au village en leur facilitant la tâche. Donc, il nous a fait une demande de matériel agricole parce qu'ils ont beaucoup de difficultés à trouver du matériel agricole, on va dire, correct au Sénégal. Le peu qui existe sont vendus très cher ou pas du tout adaptés à ce qu'ils ont besoin. Donc, on va essayer de s'occuper de ça. C'est un projet, mais là, le maire a une idée intéressante. Il ferait, on va appeler ça comme une espèce de... une coopérative, un peu, une CUMA de matériel agricole. Et ça serait la mairie qui en prendrait la charge, donc qui prendrait un crédit pour payer ce type de matériel. Et lui, le louerait alors, avec un chauffeur et tout ça, il a tout calculé, avec donc à la journée, à la demi-journée, en fonction... Ça, c'est son problème. Mais c'est des choses intéressantes aussi à faire pour essayer de les aider à se développer. Et cet engin, il tournerait un peu dans les villages, il s'inscrirait sur une liste. Il a déjà tout calculé ça. Et ça, c'est un projet... qui est aussi coûteux, bien sûr. Ça va être de l'ordre entre 8 et 10 000 euros, tout compris, sûrement. Mais c'est quand même viable. Et surtout, si lui, il arrive à louer un peu derrière, ça peut être un projet très, très intéressant qui peut être suivi par Diwa Jumelage encore. C'est un peu dans nos capacités, quoi, voilà.
Qui pourrait aussi, justement, intéresser les jeunes. Voilà, parce que, du coup, ce serait quand même une agriculture un petit peu modernisée.
Voilà, un petit peu, oui.
Et pour essayer de fidéliser ces jeunes et leur donner un petit peu des projets de vie.
Il faudrait dire aussi que ça permettrait d'augmenter les terres cultivées et donc une plus grande productivité de leur, parce qu'ils ont beaucoup d'espace, eux ils ne manquent pas de terres, mais par contre vu la façon de travailler, ça, c'est très peu cultivé par rapport à l'espace dont ils disposent.
Du coup, au final, le coût qu'imposerait potentiellement le matériel serait rapidement
pour être amorti. Par contre, on a la facilité d'en trouver en France du matériel qui pourrait être robuste et adapté là-bas. Le plus grand coût, ce serait le transfert. Donc, c'est là où on est en train de mettre en concurrence et de rechercher les transferts possibles pour que ça ne grève pas trop l'opération. Sachant qu'effectivement, c'est une opération où on apporterait notre contribution par nos recherches en France de matériel, mais qui serait à la charge financière des Sénégalais.
Oui. On n'a pas parlé de ça. Le maire était d'accord pour la prendre en charge. Après, peut-être que les immigrés, donc l'association d'immigrés, peut-être se prendre en charge un peu, on ne sait pas. Nous, on s'occupe, je veux dire, de la recherche, d'éventuellement de faire le chargement de la préparation du conteneur d'un transport différent par camion, peu importe. Ça sera notre contribution, de s'occuper de l'envoi. Mais on ne peut pas, à l'heure actuelle, financer ce type de... Sauf si on a un gros sponsor après cette émission.
Qui sait, peut-être qu'un sponsor nous écoute en ce moment même et se sentira un élan de charité.
Peut-être, par exemple, je peux lancer les viticulteurs. Des fois, ils ont des tracteurs d'occasion, comme ils changent de temps en temps. On serait preneur, on peut aller les voir. C'est pas un souci. Hein.
Il y a deux sujets dont on a envie de parler parce que ça nous a beaucoup touchés. C'est l'accueil qu'on a reçu dans le village de Soututa, où la population avait préparé notre visite et avait mobilisé, ça s'appelle pas des sorciers, on appelle le Gandouran. C'est un personnage un petit peu de légende qui est habillé que de feuillage et qui chasse les enfants à coups de, mais qui en même temps apporte beaucoup de joie et beaucoup d'ambiance dans le village. C'est une fête qui n'a pas lieu très souvent, mais à l'occasion de notre visite, ils avaient provoqué cette fête. Et donc, nous avons eu droit à deux gandourans, donc toute la population était réunie pour nous accueillir et danser toute la journée parce que c'était un jour de fête.
Accompagné de djembé.
Accompagné de djembé qui sont d'une énergie, d'une frénésie pour entraîner les danseurs et les danseuses. Donc ça, c'est très touchant. Ça dure. On a souhaité que ça dure pas trop, parce que notre séjour n'étant pas trop long, on n'avait pas le temps de laisser trop le temps à la fête. Mais c'était une façon de nous témoigner leur gentillesse et leur accueil. Voilà. Et il s'est trouvé aussi, c'était la deuxième chose dont je pensais qu'il était important de parler, c'est que quand nous étions là-bas, se préparait un grand événement, le rassemblement de... une trentaine, quarantaine de communes, je ne sais plus.
Il y a eu 189 villages.
Sous l'égide d'une association qui s'appelle Tostan et qui fait de l'alphabétisation et de l'éducation pour les adultes, pour... sensibiliser la population à toutes les problématiques d'hygiène, de santé, qui fait aussi de l'alphabétisation, mais parfois dans la langue des gens, pour pas les pénaliser s'ils ne parlent pas le français, surtout que ça s'adresse aux femmes, mais aux hommes aussi. Et donc, depuis 3 ans, cette opération a permis de mobiliser toute une région sur des problèmes très particuliers de l'excision et des violences faites aux femmes. Et ça se terminait au bout de ces 3 ans par un grand rassemblement qui avait lieu justement à Dougué et à Soututa. Donc Dougué et Soututa étaient chargés d'accueillir tous ces gens et l'association Tostan devait prévoir toute l'organisation nécessaire. Et ça devait se terminer par une proclamation où la population s'engageait, donc les 200 communes qui étaient mobilisées autour de ça, avec des représentants de chacune des communes, faisaient une grande déclaration solennelle où ils s'engageaient à respecter l'interdiction de l'excision, qui est une loi au Sénégal, mais qui, hélas, n'est pas encore appliquée loin de là. Et donc, renoncer à l'excision des petites filles.
Qui a également été prononcée, je crois, le 6 décembre, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Si vous allez sur Internet, à l'association Tostan, vous verrez la déclaration de tous ces villages. Et également contre les violences faites aux femmes, parce qu'il a été constaté lors de ces 3 années de sensibilisation pour l'association Tostan que beaucoup de femmes subissent des violences, souvent dans leur propre famille, de la part de leur mari. Les filles subissent les violences des mariages imposés très jeunes et parfois des violences sexuelles ou autres dans leur propre famille, dans leur courée. Donc, c'est une sensibilisation pour dire stop à ça. On a rencontré quand même des personnes qui sont motivées, pleines de bonne volonté, et c'est d'autant plus courageux que c'est souvent des personnes qui viennent de bien loin d'autres régions du Sénégal, qui ne sont pas du tout habituées à cet inconfort, aux langues du coin. Donc, elles ont tout à apprendre également et à s'adapter. Donc, il faut leur souhaiter que ces personnes restent quand elles sont motivées.
De la même façon, le directeur du collège aussi, avec qui on a pu discuter aussi, on est dans conversation, sont vraiment des gens qui sont plein de projets dans leur tête, plein d'ouverture, plein de... Vraiment, ils forcent l'admiration.
Je crois qu'on peut parler qu'on est allé faire une visite à Ndem. Et c'était un peu un village pilote qui, il y a 30 ans, était dans la situation à peu près de Dougué. Et suite à une initiative dont va vous parler Gilberte, a permis de développer toute une série de villages, toute une commune de villages, et qui est en partenariat, ou dit à déjà
participer.
Eu,
voilà. Déjà, oui. Moi, je dirais que Ndem, c'est une utopie devenue réalité. Pour moi, c'était l'expression que j'ai employée quand j'ai parlé à ma famille de ce village, parce que en 84, donc un couple a décidé de retourner dans ce village, désespéré de voir que ce village était vraiment désertique. Il n'y avait plus que les femmes, les enfants et les hommes âgés, parce que les hommes en force de travail étaient partis à l'étranger pour gagner leur vie. Et donc, en fait, ils ont conçu tout un éventail pour développer ce pays. Et la conception a été globale, ça n'a pas été des choses ponctuelles qu'ils ont ajoutées les unes aux autres. Il y a une conception globale de développement. Et donc, maintenant, il y a un village qui est arboré, qui est fleuri, qui tend au bien-être de la population et pour donner du travail aussi, enfin, le travail évidemment sur l'eau, des recherches d'eau, des recherches d'assainissement, mais aussi création d'un village artisanal. Et les produits étaient vendus en Occident. Et donc, depuis, les gens ne migrent plus. Les gens restent au village. On a été très, très bien accueillis. Et donc, le village de Ndem n'est pas inconnu des Diwa, parce qu'il y a un groupe de jeunes du centre de l'espace social qui sont allés faire un séjour il y a 2 ans, au mois de février, et qui avaient participé à la construction de local.
D'une bergerie, je crois, ou quelque chose
du
comme
marché,
ça.
Je ne me souviens plus exactement. Il devrait y avoir un autre groupe de lycéens qui doit y aller, là, qui doit aller en février. Je ne sais pas où en est le projet. C'était un peu compliqué. Et j'espère de tout cœur qu'ils vont pouvoir réaliser ce projet.
On leur souhaite aussi.
En tout cas, pour nous, ça a été une très belle expérience, très belle visite, d'autant plus que les personnes qui nous accompagnaient, donc le maire Baba Ndiaye et Chérif Sakanoko, ont été effectivement très impressionnées et on se sont imprégnés de tout ce qui se faisait plein d'idées qui leur venaient de ce qu'ils pourraient faire chez eux. Donc c'était l'idée, c'était de leur montrer un peu une autre expérience en dehors de tous les organismes officiels, de voir du concret et de les voir en train de ramasser les graines, d'imaginer du goutte à goutte, d'imaginer des possibilités pour eux. Pour nous, c'était très intéressant.
D'ailleurs, voilà. Ils ont dit tout de suite, on pourrait bien envoyer des jeunes quand même pour qu'ils voient ce qu'il est possible de faire. Parce que je pense que Baba Ndiaye disait souvent, mais regardez, ce pays est plus déshérité que Dougué. Donc, parce que c'est beaucoup plus sec en fait. Et pourtant, le village par lui-même est très arboré, même fleuri, ce que c'est rare de voir ça au
Sénégal. Donc vraiment un espoir pour les villages
complètement,
voisins.
Oui. Ils sont revenus, ils étaient vraiment... Et c'est intéressant pour nous aussi, c'était notre volonté de faire connaître aux habitants de nos villages partenaires des expériences qui se déroulent ailleurs. Et après, les choses vont se faire entre villages.
Après ce voyage-là au Sénégal, donc à Dougué, et dans les alentours de Dougué, donc il me semble qu'il y avait donc, comme on parlait en tout début d'émission, une convention qui avait été proposée, et il me semble qu'elle a été acceptée.
Oui, elle a été signée lors d'un conseil municipal qui s'est déroulé en notre présence les derniers jours de notre voyage. Donc c'était un moment un petit peu émouvant aussi. Et il faut dire que le conseil municipal est composé de 40 personnes, 20 hommes et 20 femmes. Et là, il y avait 30 présents, je crois. Oui. Hein oui. Voilà, donc chaque parti a signé la convention.
Et alors, cette convention en elle-même, qu'est-ce qu'elle a porté véritablement et qu'est-ce qui était intéressant?
La convention, c'est un petit peu pour formaliser. Alors peut-être que c'est plus important pour nous, Européens, que les choses soient écrites, parce que c'est vrai que là-bas, ils fonctionnent plus dans l'oral. Le papier n'est pas forcément l'outil premier qu'ils utilisent. Mais pour nous, c'était important de formaliser, de donner un côté officiel à notre démarche, à leur demande, et que chacun sache qu'il est impliqué. Je pense que c'est quand même la bonne volonté des différents partenaires qui fera le reste, mais c'était important que ce soit écrit quelque part. Et en plus, lors de cette grand-messe qui est le conseil municipal, lequel était donc mobilisé spécialement pour nous par le maire, lequel avait bien fait les choses puisqu'il leur avait dit « vous aurez à manger après la réunion », ce qui lui a permis d'avoir quelques recrues supplémentaires, je suppose.
Certainement.
Mais du coup, voilà, c'était le dimanche, grande réunion au sommet, parce qu'ils venaient quand même de loin, donc les moyens de transport sont pas simples, et donc il fallait que chacun se sente concerné. Et sachant qu'effectivement, un conseil municipal, quand il est... ce que nous avons exprimé, nous l'avons dit en français, mais ensuite, il fallait le traduire dans les trois autres langues. Donc, c'est un peu long. Chaque information, chaque question doit être traduite. Et ensuite, ils en ont quand même profité pour traiter, ou le maire en a profité pour leur donner des informations sur d'autres sujets qui ne nous concernaient pas. Donc, ensuite, on est allé ailleurs.
Moi, ce que je regretterais sur le conseil municipal, c'est que même si la présence était pratiquement équilibrée entre femmes et hommes, les discours sont quand même masculins à 90%, malheureusement.
Et cette année-ci et ce voyage, donc en début 2016, maintenant qu'on commence à voir un peu plus clairement l'arrivée de la pompe à énergie solaire, a priori en tout cas c'est bien parti pour, est-ce qu'il y a des nouveaux objectifs qui ont commencé à sortir de tout ça, qui commencent à arriver?
Le nouvel objectif, c'est le matériel agricole. Ça sera le suivant, si on peut aller au bout. C'est la priorité. Sur les retenues d'eau, c'est assez long. Donc, les études sont assez longues. Je pense que j'aurai pas les résultats avant fin de ce premier semestre, mais les résultats chiffrés. Donc, c'est loin. Après, il faut trouver des partenaires donc financiers importants. Et là, c'est notre domaine, quoi. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est des projets qui sont sûrement pour plus longtemps, de 2017 ou 2018, quoi. Parce que c'est quand même lourd comme travaux, quoi. On ne peut pas partir sur... vous savez, les grandes ONG que nous avons rencontrées, ils ont de l'argent. Mais ils préparent leurs projets longtemps à l'avance. Et tout est planifié chez eux, ce qui est obligé, quoi. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, si ils veulent intégrer nos projets, il faut donc, nous, par exemple, on les présenter deuxième semestre 2016 pour qu'ils puissent en tenir compte avec un avis favorable pour 2017. Voilà. Ça sera des projets à plus long terme. Après, l'histoire du moulin à mine, pour moi, c'est anecdotique parce que ça va être réglé avec nous et puis Électriciens sans frontières, sûrement. Donc, il y aura peut-être qu'un coût de transport. Ça devrait se faire. Ce n'est pas des montants financiers. Je pense que s'il reste encore 4 sous au DIY jumelage pour envoyer le groupe, on devrait y arriver, je pense. Sinon, on se cotisera nous-mêmes, quoi. Tant pis. Voilà. Voilà les projets. Donc, je trouve que c'est assez important. Alors, moi, c'est la première année que je vais au Sénégal. Et ben, j'ai trouvé qu'en pas longtemps, puisque donc, la visite de Baba, si je me rappelle, c'était au mois de mai.
Oui, par là.
Donc, au mois de mai, voyons, le voyage, donc novembre-décembre. Et on va peut-être installer une pompe. Enfin, on va installer une pompe, j'en suis persuadé. Donc, avant fin mars. Ben, je trouve que c'est très rapide. Pour moi, avait fait d'autres pays africains où je trouve qu'on a été beaucoup. On est encore plus long que ça encore. Je trouve que même DIY jumelage, si c'est. La commission Sénégal est petite, je trouve qu'elle est efficace pour l'instant. Et on espère qu'elle continuera.
On invite aussi d'autres personnes. Si d'autres personnes ont envie de venir participer au groupe Sénégal à l'intérieur d'Iwa Jumelage, il faut qu'elles se fassent connaître. Les coordonnées d'Iwa Jumelage sont faciles à obtenir.
Je vous remercie encore à vous tous d'être venus nous parler donc de ce passage au Sénégal.
Merci à vous.
Et ben de rien.
Merci beaucoup.
Bonne soirée à tous et à toutes.